Et donc, bienvenue Doris, merci beaucoup d'être parmi nous, surtout en ce moment. Je sais que ça t'a demandé particulièrement une vraie générosité. Donc, un grand merci pour ta présence depuis le Brésil. Donc, pour te présenter, Doris, tu es comédienne, marionnettiste et psychologue également, docteur en études théâtrales à l'Université Paris 3. Tu es la fondatrice et la directrice du Limbisen Studio, un centre de recherche transdisciplinaire consacré à l'étude des émotions hein, chez l'interprète et aussi chez l'enfant, avec tout ce travail incroyable que tu as réalisé sur ce lien avec les émotions et le théâtre. Donc, ton ouvrage Théâtre et neurosciences des émotions, je vous le recommande à tous, publié chez l'Harmattan. Est basé sur donc cette expérience et tes recherches en neurosciences dans le domaine des arts et du développement émotionnel des enfants. On avait eu la joie de t'accueillir il y a 2 ans à l'AND, à l'Association nationale de dramathérapie, pour une intervention sur l'inscription corporelle de l'expérience théâtrale. C'était un moment super intéressant. Et donc, voilà, pour aujourd'hui, c'est une autre présentation autour de la marionnette que tu nous proposes. Je t'en remercie. Et si j'ai oublié quelque chose, voilà, n'hésite pas à le rappeler, notamment sur la dramathérapie, puisque voilà, au Brésil, c'est un petit peu différent peut-être que le cadre art thérapeutique qu'on peut avoir en France. Bon, je te
Merci
laisse la
beaucoup,
parole.
Viviane. Bonjour à tout le monde. Merci, Viviane et Osfat, pour cette invitation. J'avoue que je suis un peu, j'ai un peu le trac parce que, non pas pour ce que j'ai à dire, mais parce que ça fait quelques mois, peut-être des années que je ne parle pas le français. Donc, j'espère que vous alliez quand même me comprendre. Et ce qui importe ici, c'est le lien, parce que c'est notre sujet. Donc, j'espère qu'on pourra établir ce lien et que ce que j'apporte ici aujourd'hui pourra vous aider et apporter beaucoup de choses, des insights et des nouvelles pratiques dans le cadre de votre travail thérapeutique. Et donc, j'ai assisté un petit peu à ce qui était en train d'arriver ici avant que j'arrive. Donc, vous parliez un peu de marionnettes là. Je n'ai pas tout assisté. Donc, on va continuer sur ce sujet. Je vais essayer de mettre mes diapos ici. Donc, ça marche. Voilà, donc on va parler sur le théâtre de marionnettes comme un outil de facilitation de la relation thérapeutique. Et à partir d'une approche neuroscientifique, c'est un peu ma mission de diffuser ce savoir neuroscientifique, comment appliquer la connaissance neuroscientifique dans le théâtre appliqué ou dans l'art thérapie aussi, parce que les marionnettes, ça peut intéresser les gens du théâtre, mais les art thérapeutes tout court. Donc, je vais commencer par une petite histoire parce qu'on me pose souvent la question comment je suis arrivée là? Et en fait, ça commençait avec ma mère qui disait, à chaque fois que je disais que je voulais être dentiste, elle disait, ah oui, t'as raison parce que pour être dentiste, il faut être artiste. Et j'ai écouté cela maintes fois et voilà que j'ai grandi et je suis allée faire des études de psychologie, mais aussi me former dans les arts. Donc, je suis comédienne aussi. Mais tout a commencé à cause de la médecine dentaire. Plus spécifiquement ici, je pense que vous connaissez ce bâtiment, c'est l'hôpital de la Salpêtrière, où j'étais inscrite pour une formation, un troisième cycle sur la neurophysiologie de la bouche. Et j'étais aussi dans ma première année de thèse sur le théâtre, et à l'époque, c'était un projet sur le théâtre thérapeutique à partir d'une vision de la psychologie, parce que c'était ma formation de base. Et puis là, un jour, le prof a commencé à parler d'un cas neurologique qui a cité le nom d'Antonio Damasio. Et là, je me souviens qu'il avait écrit sur le tableau le nom du livre, c'était L'erreur de Descartes. Et j'ai acheté comme ça, par curiosité, ce petit bouquin d'Antonio Damasio. Et c'est là que tout a changé. Et finalement, j'ai abandonné l'odontologie J'ai fini ma thèse. J'ai changé mon sujet de thèse. J'ai introduit les neurosciences dans mon travail de recherche autour du théâtre, du pouvoir transformateur du théâtre. Et puis, je suis venue au Brésil où je commençais à donner des cours de théâtre à un petit groupe d'adolescentes. Et ces adolescentes-là, elles avaient beaucoup de problèmes au niveau émotionnel. Et à cette époque-ci, j'ai fréquenté mon premier postdoc en interdisciplinarité où j'ai eu le contact pour la première fois à ce dispositif de neurobiofeedback que je peux vous montrer. Et j'ai commencé à travailler les émotions avec ce petit groupe, en utilisant cette technologie qui peut capter en temps réel et enregistrer quelques données physiologiques liées aux réponses émotionnelles. Et c'est comme ça que j'ai développé un training pour travailler les émotions à partir d'un regard neuroscientifique, mais un training pour les performeurs, c'est-à-dire les artistes de la scène et n'importe qui travaille en relation avec les êtres humains. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je ne savais pas, la plupart de ces filles-là sont neurodivergentes. Et c'est pas pour rien qu'elle disait qu'elle avait des problèmes avec les émotions, qu'elles n'arrivaient pas à pleurer en scène, à reconnaître les émotions. Et finalement, avec cet entraînement, elles ont pu changer leur vie et grandir d'une façon plus épanouie. Mais comme je suis artiste, marionnettiste, j'ai développé une version de ce entraînement. C'est pour ça que je parle du training neuro-émotionnel pour enfants. Et donc, on va parler des marionnettes, mais pas n'importe quelle marionnette, mais les marionnettes émotionnelles. C'est un projet que j'ai créé et que je vais partager ici avec vous, tout en ayant l'attention sur cette question du rapport, du lien thérapeutique. Donc, ce projet avec les marionnettes émotionnelles, elle englobe tout d'abord, les étapes, l'éducation émotionnelle, c'est-à-dire que oui, on doit enseigner, apprendre aux enfants qu'est-ce qu'une émotion. Et je vais parler de façon plus détaillée de chacun de ces éléments-là. On travaille avec la révélation émotionnelle, l'expression, l'apprentissage dans l'expression des émotions, aussi la pratique et le lien à l'autre, que c'est ce que nous intéresse ici, et aussi la construction d'une partition émotionnelle. Dans le théâtre, on parle souvent des partitions scéniques, mais ici, à part cette partition scénique, on peut construire une véritable partition émotionnelle pour travailler toutes les émotions ou les principales émotions sont les émotions de base ou les émotions primaires. Mais avant de commencer, je voulais attirer l'attention, le diapo, il n'est pas très net là, mais bon, comme je disais, c'est ma mission, c'est de diffuser ce savoir parce que quand on parle de théâtre, et c'est mon domaine, donc l'art-thérapie, ce n'est pas forcément où je travaille, mais je suis plutôt dans le théâtre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup d'interprétations, d'élaborations, des théories inspirées de la sociologie, de la psychanalyse, de la psychologie, la philosophie, l'anthropologie, mais on a très peu d'espace encore pour les sciences de la vie. Et lorsque je parle des sciences de la vie, je ne parle pas forcément des neurosciences, mais aussi de la biologie, de l'épigénétique et tant d'autres domaines de connaissances des sciences de la vie. Donc, c'est un appel que je vous fais et d'essayer d'ouvrir un espace pour ce que les sciences de la vie peuvent nous apporter, parce que finalement, nous sommes des êtres sociaux, des êtres subjectifs, pensants, anthropologiques, culturels, mais nous sommes surtout des êtres biologiques. Et c'est pas pour dire que nous sommes surtout biologiques, mais nous sommes aussi biologique. Donc, l'idée, c'est de construire une vision intégrée de l'être humain et d'apporter cette vision dans notre contexte thérapeutique. Lorsqu'on parle du lien, c'est impossible de ne pas parler un peu des neurosciences du lien. C'est une nouvelle branche des neurosciences et cette branche, elle est assez forte en France où les psychanalystes et les neuroscientifiques essayent de trouver un point en commun. Et ce point en commun est le lien qui est défini et conduit et régulé par les émotions. Et on ne peut pas parler, tout le monde le sait, de lien thérapeutique, des rapports humains sans émotions. Donc, on doit connaître les émotions. Mais malheureusement, je pars du Brésil en France aujourd'hui, je ne sais pas comment ça marche, mais ici, malheureusement, on ne parle pas d'émotions à partir d'un point de vue neuroscientifique, ni dans les écoles d'art-thérapie, ni dans les écoles de théâtre, ni dans les écoles de pédagogie. On ne voit pas encore cette discipline dans le cadre institutionnel de formation des gens. Et donc, on doit parler, je vais commencer par là, par cette question des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? J'aime bien simplifier et rendre plus didactique cette définition, mais une émotion, c'est bien évidemment une réponse multifactorielle qui englobe la physiologie, l'activité motrice, le comportement, la pensée, la subjectivité et aussi les champs électromagnétiques. Alors, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent dans les études des émotions. En général, les auteurs qui travaillent sur la neuroscience des émotions parlent de trois ou quatre composantes des émotions, surtout les réponses physiologiques, les réponses expressives, quelques auteurs y rassemblent réponses expressives et réponses comportementales et réponses cognitives. Mais les réponses électromagnétiques, c'est quelque chose encore que c'est pas trop diffusé dans les études des émotions. Et moi, j'aime bien présenter cet ensemble, ces cinq composantes des émotions, parce que surtout les réponses électromagnétiques, c'est ce qui va jouer un rôle très important et crucial dans le lien entre les êtres humains, que ce soit dans le contexte thérapeutique ou de la vie tout court. Donc, les réponses, je vais parler rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, les réponses physiologiques, personne ne s'en doute. Lorsqu'on est en colère, on sait bien ce qu'on peut ressentir au niveau physiologique. Lorsqu'on est triste, on peut pleurer, on se sent dans un vide profond. Lorsqu'on est en rage, il y a les pupilles qui se dilatent, le cœur lorsqu'on a peur, le cœur, il bat très fort. Donc, les signes physiologiques sont très clairs. Normalement. Et aussi, les réponses expressives, ce n'est pas seulement l'expression faciale. Ça englobe aussi comment on dit, les expressions physiques. Il y a un terme. Je vais oublier quelques mots. Hein? Soyez un peu patients avec moi. L'expression physique, disons des émotions, l'expression corporelle. Et aussi quelque chose de très important qui va jouer un rôle décisif dans le travail avec les marionnettes, qui c'est la voix émotionnelle. Parce que ce n'est pas ce qu'on dit, c'est comment on le dit. Et dans ce comment on dit quelque chose, on peut avoir des pistes sur des éléments émotionnels de l'enfant qui joue avec la marionnette. On va voir cela plus de près. Après, on a aussi les réponses comportementales. C'est ce qu'on fait pendant une émotion. Les réponses cognitives, qui c'est d'abord la perception que nous avons de ces changements au niveau physique corporelle et c'est ça qu'on appelle le sentiment. Le sentiment dans la littérature neuroscientifique, sentiment et émotion ne sont pas la même chose. Un sentiment, c'est part de la réponse émotionnelle, c'est une des composantes d'une émotion. Et à part cette perception des changements physiques, on a aussi tout ce que s'y passe, cette petite voix, nos pensées, toutes nos interprétations, tout ce qu'on peut fabriquer après cette prise de conscience des changements dans notre corps. C'est aussi notre imagination, c'est tout ce qu'on produit au niveau cognitif. Et puis les réponses électromagnétiques, qu'on sait bien que chaque émotion possède une signature électromagnétique. Finalement, nous sommes des êtres qui ont produit de la lumière. Je ne sais pas si en français on appelle ça biophotons. Je ne sais pas si c'est le mot, mais on produit des petites particules de lumière qui c'est la plus petite partie de ce champ électromagnétique. Et c'est un champ qui communique et qui parle, mais qui on ne peut pas voir, c'est comme le Wi-Fi, mais ça existe. Il y a plein d'études qui lient les réponses émotionnelles et la production de ces champs énergétiques. Et il faut savoir aussi, et ça c'est très important dans le cadre thérapeutique, que chaque émotion, surtout les émotions de base, les émotions primaires comme la rage, la joie, la tristesse, la peur, ces émotions-là, elles possèdent une signature respiratoire, physiologique, une signature expressive, qui est l'importance de ça, c'est que si on apprend à reproduire ces signatures, on est capable d'aller directement activer notre système émotionnel. On sait bien que c'est régulé par le système nerveux autonome, mais il y a une porte d'entrée directe. Il y en a d'autres qui sont indirectes, comme la pensée, mais il y a une entrée directe dans ce système opérationnel que c'est la respiration. Alors, si on demande, du moins ici au Brésil, est-ce que vous connaissez la respiration de la joie? La respiration de la peur, la respiration de la tristesse. Très peu de gens connaissent ça. Et pourtant, ce sont des recherches qui ont été faites depuis les années 70 en France, à partir des études d'une neuropsychologue qui s'appelle Susanna Bloch. Elle est allemande, elle habite au Chili aujourd'hui, elle est encore vivante, un peu âgée, mais encore vivante. Mais elle a travaillé pendant plus de 20 ans au CNRS en France. Et c'est là qu'elle a commencé tout ce travail. Et pourtant, pendant ma thèse, j'ai trouvé un seul article en français de Susanna Bloch. Elle est très peu connue en France et dans le monde entier aussi. Mais bon, voilà cet aperçu de ce qui est une émotion à partir d'un point de vue neuroscientifique. Et je voudrais bien vous demander, dorénavant, chaque fois que vous pensez ou que vous imaginez une émotion, il faut se demander, OK, on parle de la rage, quelles sont les réponses physiologiques de la rage? Quelles sont les signatures expressives, y comprenant la voix émotionnelle de la rage? Comment on se comporte pendant la rage, un épisode de rage, qu'est-ce qu'on pense? Comment on peut reconnaître cette rage en nous? Et quelle est la conséquence électromagnétique de la rage? Le premier pilier de ce travail avec les marionnettes, comme j'avais dit avant, c'est l'éducation émotionnelle. Si vous voyez une photo du bouquin de Paul Ekman, c'est l'un des plus grands neuroscientifiques spécialistes dans les émotions humaines. Donc, on voit là des exemples des émotions primaires comme la rage, la tristesse, la peur, la surprise, la joie. Et donc, le travail que je fais avec les enfants pour créer ces marionnettes, avant de penser de créer ces marionnettes, j'apprends à ces enfants comment c'est la rage, quelle est la position du sourcil pendant la rage, la tristesse, la bouche, le corps, comment on peut décrire une émotion. Et donc, pour cela, on peut utiliser plusieurs recours comme les dessins, la sculpture, apporter des films. Aujourd'hui, on a je ne sais pas comment on dit en français, les films sur les émotions de Pixar. Enfin, ce n'est pas grave, mais aussi ces films-là sont très sympas pour apprendre aux enfants sur les émotions. Et donc, si l'enfant il a une certaine difficulté à reconnaître les émotions, là, il va commencer à apprendre que si on a des sourcils en forme de pyramide inversée, ça peut être de la rage. Et comme ça, il commence à apprendre et à élargir son répertoire émotionnel. Et pourquoi j'apprends aux enfants sur les émotions d'un point de vue scientifique, mais de façon pédagogique, pour commencer à créer la marionnette. Donc, vous voyez que dans ce travail, dans ce projet de marionnette émotionnelle, on ne va pas utiliser des poupées qui sont déjà faites. Ça, c'est très bien aussi. Mais dans les cas ici, ça fait partie de l'apprentissage émotionnel, la construction même de la marionnette. Et pourquoi on va construire une marionnette? Et comment on va faire ça? D'abord, il faut savoir que les marionnettes fonctionnent comme une espèce d'extension de notre corps. Et l'enfant, et n'importe qui, parce que les marionnettes, ça enchante n'importe qui, l'enfant, il sent que d'une certaine manière, c'est lui qui est derrière la marionnette, mais c'est pas lui qui s'exprime de façon nette, objective. Donc la marionnette, elle fonctionne comme une espèce de protection de ses contenus émotionnels, de ses pensées, de sa subjectivité. Et comment je commence ce travail? Je demande à l'enfant, quelle émotion tu veux que ta poupée, elle démontre? Donc, il va falloir passer à un choix de l'émotion pour débuter ce travail. Et rien que cette question, plutôt cette réponse, l'émotion choisie, c'est déjà une porte d'entrée pour ce lien, pour la révélation des émotions de cet enfant. Donc là, on peut par exemple poser la question, ah d'accord, tu veux travailler la tristesse, donc ta poupée, elle sera triste. Oui, elle sera triste, mais pourquoi elle est triste? Et donc, vous voyez, c'est pas l'enfant. On parle pas des émotions d'enfant, de l'enfant, on parle des émotions de la poupée. Pourquoi elle est triste? Donc, il va commencer à élaborer cette petite histoire, les motivations, les contextes et pourquoi il veut donner cette émotion à sa poupée. Et donc, c'est là qu'on va commencer à construire. D'abord, moi, j'aime bien donner une feuille pour commencer à dessiner et là aussi pratiquer la vision même de cette expression de tristesse dans l'exemple ici. Donc, l'enfant, il va dessiner son avatar, enfin, la marionnette qu'il veut construire. Et par la suite, elle va construire elle-même cette marionnette. Et si j'utilise la pâte à sel, enfin, ce n'est pas une pâte à sel comme en France, elle est un peu différente ici, mais en France, on peut faire ça avec la pâte à sel. On construit, c'est là, il y a des petits yeux qu'on peut mettre dans la poupée. Et puis, ce travail de construction, c'est très bien pour travailler la motricité de l'enfant. Donc, ce n'est pas que les émotions. On travaille la motricité, l'organisation des idées, le développement de l'attention. Et on sait qu'aujourd'hui, nous sommes tous très distraits à cause des médias, enfin, des appareils électroniques. Et donc, c'est très important de travailler l'attention et la construction de la marionnette propose cette espèce d'organisation que ce n'est pas seulement mental, mais c'est aussi intégré avec tout son D'accord. Donc ça, c'est la deuxième étape de ce projet de travail avec les marionnettes émotionnelles. Donc il va choisir une émotion et commencer à dessiner et parler de cette émotion. Et c'est là que le lien, il peut être stimulé entre le thérapeute et l'enfant pour aborder cette émotion spécifique. Et il ne faut pas oublier que le travail des émotions, il doit surtout être fait aussi par le propre thérapeute. C'est du déjà vu, je n'ai pas besoin de parler de ça. Mais quand on parle, par exemple, de cette composante électromagnétique, si le thérapeute, il arrive, enfin, il y a des choses qui arrivent dans sa vie, il est très enragé, il doit aller travailler, il rentre dans le cabinet, et puis s'il ne travaille pas sur la neutralisation émotionnelle, vous pouvez être sûr que l'enfant, il va sentir énergétiquement, et ce n'est pas du mysticisme, hein, c'est de la science, ça, c'est de la physique, il va le ressentir dans l'espace thérapeutique. Et donc, c'est pour ça que c'est très important que nous, en tant que thérapeute, on travaille sur la neutralisation émotionnelle. Il existe des exercices, des pratiques pour atteindre cette neutralisation avant d'entrer en scène dans le jeu thérapeutique. La troisième étape de ce travail, c'est le training émotionnel. L'enfant, il aura sa marionnette et il va se placer dans un petit théâtre ou même derrière une table. Je travaillais dans une école française où on n'avait pas de théâtre. Et donc, on baissait, on tournait une table comme ça. Et donc, on faisait un espace de jeu scénique. Et donc là, l'enfant, il va travailler avec la marionnette. Il va travailler dans sa petite histoire qu'il a créée. Et c'est là qu'on va voir la modulation vocale. Comment il gère ses propres émotions dans le cas, comment il gère cette tristesse et les contenus, qu'est-ce qu'il va parler? C'est un travail plutôt d'improvisation ici. Et plus que ça, ce travail scénique avec les marionnettes peut promouvoir une véritable intégration psychophysique parce que quand on rentre en scène, que ce soit avec une marionnette, ou sur un plateau, sa marionnette. On rentre avec toutes nos potentialités. C'est notre corps, nos émotions, notre pensée, notre physiologie, notre perception sensorielle. Et là, on a besoin de se concentrer à ce qu'on va faire. Donc, on a une possibilité d'entrer dans cet état de flow, ces caractéristiques du théâtre, et d'expérimenter ce bien-être du jeu, de faire tout cela d'une façon légère et même amusante. Et ce qu'il y a de très important dans le travail scénique, mais surtout avec la marionnette, c'est que ce jeu, il nous permet d'entrer dans cet état de grâce, d'épanouissement, et cela nous mène à la production des ondes cérébrales des types alpha. Ce sont les ondes qu'on produit lorsqu'on fait de la méditation, par exemple, le début de la méditation, lorsqu'on fait quelque chose qui nous apporte du bien-être, comme lire un bon roman, comme voir un film qui peut nous émouvoir, qu'on aime bien, et lorsqu'on monte sur les plateaux, c'est là qu'on se trouve, on nage dans ces ondes alpha. Et on sait aujourd'hui que lorsqu'on est dans ce mode de fonctionnement cérébral, on a plus d'énergie disponible. C'est-à-dire que notre cerveau, il fonctionne comme une pile. Imaginez qu'une pile, il a des résistances. Quand il y a plus de résistance, il y a moins d'énergie disponible dans une pile. Notre cerveau, il est comme ça. Et ces résistances, ils se trouvent dans les ondes bêta. Et les bêta à haute fréquence, que c'est l'état enfin du stress, de la préoccupation, de l'angoisse, de l'anxiété. Là, on a plus de résistance et moins d'énergie. Et quand je parle d'énergie, c'est d'énergie vitale, biologique, disponible pour le travail. Quel travail? On sait bien que toute transformation, tout apprentissage doit gérer de nouvelles, est le résultat en fait des nouvelles connexions dans le cerveau. Et lorsqu'on est en train de travailler dans le contexte thérapeutique et qu'on produit un environnement propice à la fabrication de ce type d'onde cérébrale alpha, qu'on libère plus d'énergie pour le travail et avec la répétition, tout cela va accélérer la production de nouvelles connexions dans le cerveau. Et donc, la transformation, elle peut venir de façon plus rapide. C'est pour ça que tout ce qui est ludique est très bienvenu dans le contexte de l'apprentissage et aussi dans le contexte thérapeutique. Et à part tout ça, voilà, on arrive à la pratique du lien, et c'est là l'axe de le centre de notre conversation ici. C'est que dans ce moment de jeu, aussi l'intervenant, le thérapeute, il peut participer parce qu'il est quand même le public de cette présentation. Et donc là, c'est le moment où il peut intervenir. Ouais, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais pas cela? Et puis le jeu, il peut se dérouler et avancer à partir de ces petites interventions concentrées dans le jeu. Donc là, on va construire un répertoire, on peut construire d'autres histoires et c'est là que ce travail il devient plus intéressant parce qu'on peut choisir une nouvelle émotion pour construire une histoire où ce même personnage, il aura différentes émotions pour créer cette partition émotionnelle qui sera présentée pendant le jeu. Et je vous montre ici. Vite fait, voilà la poupée que j'ai construite. C'est une bouteille, en fait, une tête de coca, de n'importe qui, que je peux enlever. Voilà. Ah, il n'est plus content. Il est triste. Et voilà, c'est un système que j'ai créé pour travailler la transition des émotions. Et donc, ah voilà, il est triste. Pourquoi il est triste? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est la tristesse? Ah non, mais il a rencontré quelqu'un qui lui a fait peur. Ah, d'accord, il a peur. Comment c'est la peur? Donc, il va construire plusieurs têtes pour ces mêmes personnages et comme ça, apprendre sur chacune de ces émotions. Et donc, les possibilités du travail avec les marionnettes dans ce sens pour le développement tant du lien thérapeutique et aussi de l'apprentissage émotionnel est infinie. Et lorsqu'on fait du théâtre, on sait que théâtre, c'est répétition. Et pourquoi il faut répéter? C'est pourquoi que je travaille avec un seul personnage à plusieurs avec plusieurs têtes représentant plusieurs émotions pour qu'on puisse répéter tous ces processus. Et lorsqu'on répète, on sait que on engendre les processus neuroplastiques dans le cerveau. Et c'est là qu'on peut accélérer la transformation et l'apprentissage. Voilà, j'avais dit que j'allais accélérer, c'est fini, parce que vous voulez connaître un petit peu plus mon travail. Il y a ce lien-là. Ouf, j'ai réussi. En fait, je ne vois pas le temps passer.
Non, mais
J'adore parler
c'est
de
parfait.
ça.
Merci beaucoup, Doris. On est pile dans les temps, ce qui nous laisse le temps de pouvoir réagir, puisqu'il y a eu quelques réactions là dans le chat. Il va peut-être y en avoir d'autres sur la suite. Peut-être, est-ce que d'abord, tu pourrais nous éclairer un peu sur le contexte de ces prises en charge? Donc là, c'est dans le cadre d'un accompagnement en psychologie, ou est-ce que c'est vraiment de la dramathérapie? Comment tu peux parler de ce cadre de prise en charge?
Bon, moi, j'ai commencé dans les écoles et cela peut être fait tant comme un projet d'éducation socio-émotionnelle dans les écoles. Là, c'est plutôt un projet pédagogique. Mais ici au Brésil, ça n'existe pas la dramathérapie. C'est pas organisé, il n'y a pas un syndicat, donc c'est pas réglementé. Donc, moi, je propose un travail moi, j'appelle ça des trainings émotionnels pour enfants. Et surtout pour les enfants neurodivergents. Ça donne un résultat incroyable pour ceux qui ont vraiment la difficulté de reconnaître les émotions, de gérer les émotions. Et donc, je ne peux pas dire que c'est la théâtre-thérapie, ça n'existe pas ici. Donc, il y a pas de formation, en fait, sur le théâtre-thérapie. Tout ce qu'on a ici, c'est une formation en psychodrame. Et moi, je ne me positionne pas comme psychodramatiste. Non, mon travail, il a une autre, c'est un autre type de démarche. C'est du théâtre, mais je travaille cette question des émotions dans le contexte du jeu et de la création des poupées. Je ne sais pas si je t'ai répondu.
Oui, bien sûr, merci. Mais c'est important de rappeler ces cadres-là et de voir que bah, ça se passe pas de la même manière, voilà, sur un autre continent, dans un autre pays, qui a aussi toute une culture de la thérapeutique hein, dans chaque pays. Donc voilà, c'est intéressant pour nous aussi de se rendre compte de ces différences-là. En tout cas, beaucoup de remerciements et d'admiration pour le travail que tu nous as proposé. Donc merci beaucoup.
J'ai vu seulement qu'il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi il est vert. C'est
Oui.
parce que c'est pas obligé. Hein. C'est parce que ça, c'était un dessin que ma fille elle a fait lorsqu'elle avait 20, 10 ans. Et j'ai adoré le dessin qu'elle a fait. J'ai dit, tiens, je vais créer des marionnettes. Et je suis tellement passionnée qu'il est là.
Ah
Je l'ai tatoué. Donc,
oui.
ça est devenu un peu le symbole de mon travail avec les enfants. Mais il n'y a rien de
De
particulier par rapport
figé.
à la couleur. Non, ça c'est libre, hein, c'est l'enfant qui choisit.
Ok, on a quelques questions aussi par rapport aux ondes sonores, aux fréquences. Je crois qu'il y avait des experts sur la question. Si tu pouvais
Voilà, je
rappeler
vais essayer
les différentes
peut-être
ondes
de
cérébrales.
voir là, si je peux trouver.
Bah, là, en l'occurrence, on a une des dernières questions qui dit: que pensez-vous des fréquences sonores? Alors là, effectivement, c'est très, on a affaire à une experte, comme le 432 Hz, par exemple, qui sont souvent cités pour leurs effets apaisants ou leurs effets harmonisants pour l'esprit et le corps. Est-ce que ça te parle, ça, Doris?
Tout à fait, tout à fait. Moi, j'utilise ces fréquences-là dans les cadres thérapeutiques avec l'enfant parce que je fais un travail de mindfulness avant de commencer. Donc, je travaille avec cet outil en méditation pour trouver cette neutralité émotionnelle. Tout à fait, tout à fait. Et autre chose, c'est très intéressant aussi, c'est d'avoir un chat. Parce que le chat, quand il ronronne, il aussi il émet des autres fréquences, des fréquences bénéfiques pour nous.
Il y a une question qui peut paraître toute simple, mais effectivement qui demande si pour pouvoir utiliser ce type d'outil, les thérapeutes que nous sommes auraient besoin d'être eux-mêmes marionnettistes.
Non, non. C'est facile à faire des marionnettes. Il n'y a pas de secret, hein. Bon, moi, je n'ai pas fait de formation, si vous voulez. Je suis autodidacte. Comment je fais ça? Je prends une boule de papier, on le fait comme ça, on forme une petite boule, après du scotch pour que ça forme une petite boule, après on couvre avec le pâte à sel et on met les yeux, le nez, ce qu'on veut. Après, l'important, c'est de prendre, je vais prendre une bouteille d'eau là, de faire un petit trou pour mettre le tampon là,
Le bouchon, oui.
ouais, le bouchon de la bouteille pour qu'on puisse après accoupler la bouteille là. Mais il n'y a pas de secret, hein. C'est vrai, c'est vraiment libre.
Et il y avait
Peut-être.
une question également sur est-ce que toi-même, parce que là, les enfants, ils construisent leurs marionnettes et il y a tout un travail autour de ça et après, ils jouent avec ça. Et est-ce que toi-même, dans ces séances, tu as toi-même tes marionnettes et tu échanges, tu les utilises également ou pas?
Oui. C'est une façon, même surtout au début de ce rapport du lien avec l'enfant, de disponibiliser certaines marionnettes pour qu'ils puissent exploiter tout ça. Oui, j'utilise. Oui, je le fabrique pour ça aussi. Mais ce que j'ai présenté ici, c'est un projet spécial. C'est vrai que c'est du boulot, c'est quelque chose de plus à moyen terme. Ce n'est pas un effet rapide, c'est tout un processus. Mais oui, j'utilise les poupées qui sont toutes prêtes et aussi pour interagir. Parce que si j'ai mes poupées, je peux interagir avec la poupée aussi. Donc, c'est important d'avoir sa propre collection. Oui, je suis d'accord.
C'est-à-dire que dans le temps d'improvisation, tu es également en jeu, ou alors est-ce qu'il peut y avoir les deux?
Oui, si
Oui.
l'enfant il a le besoin d'aller jusqu'au bout avec son histoire, ben oui, c'est toute une question de proposition. Ou alors même demander est-ce que je peux entrer dans l'histoire? Normalement, les enfants, ils aiment ça, de se mettre en rapport et là de créer une nouvelle histoire avec cette intervention qui vient enfin, du public. Parce que là, on a du public dans la tête de l'enfant. On a le public qui va se mettre en rapport. Et c'est justement pour ça, à mon avis, que c'est très enrichissant parce qu'il se dévoile, en fait, à travers la poupée.
Super, merci beaucoup.
J'aurais une petite dernière question vu
Ah,
que
vas-y, juste.
Martine était OK pour décaler. C'est plutôt Doris, tu parlais de pâte à sel, mais qui n'était pas vraiment de la pâte à sel. Je me demandais si c'était du papier mâché ou quelle est la technique en fait.
Non, non, on peut utiliser le papier mâché, mais ce qu'ici au Brésil, on peut trouver dans le marché, c'est une pâte faite avec la farine et de la colle. Il y a beaucoup plus de colle et donc c'est plus facile pour dessiner l'anatomie des poupées. La pâte à sel en France, qu'on trouve en France, elle est un peu dure, elle s'adapte pas trop. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi chez nous. Lorsque je faisais ce travail dans les écoles à Villejuif, je fabriquais ma pâte. J'ai trouvé sur Internet comment on faisait cette pâte-là et j'ai fabriqué. Alors, il faut avoir une casserole que pour la colle. C'est la musculation. Mais on peut faire avec le papier mâché et la pâte à sel, ça marche très bien.
Merci.
Oui, sur la question, est-ce que vous êtes marionnettiste? Parce que dans la marionnette, il y a la fabrication et ce qu'on a fait dans la relation thérapeutique avec un public. Et je pense, bon, c'est vrai que faire une marionnette, c'est une chose, et l'utiliser dans la relation, c'est autre chose. Donc, en fait, je pense que c'est pour tout ce qu'on propose en art-thérapie. Ce qui est important, c'est que on soit à l'aise avec ce qu'on propose et qu'on sache rentrer dans le jeu. Que quelle que soit la proposition qu'on a, c'est qu'on puisse jouer avec le patient, que ce soit un enfant ou un adulte, et qu'il y a cette notion de jeu qui est importante. Et donc, est-ce qu'il faut être marionnettiste? Non, mais je pense qu'il faut être à l'aise et être attiré soi-même aussi par l'outil
Oui,
marionnette
tout à fait.
et avoir envie même de jouer soi avec sa marionnette et de sentir qu'il existe, qu'il a une personnalité. Et à
Tout
partir
à fait.
de ce moment, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec une marionnette. C'est vraiment un outil passionnant, mais pas forcément facile.
Ah oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il faut quand même aimer tout ça, être dedans et lâcher prise, savoir lâcher prise dans cette situation. Vraiment, de jouir, en fait, avec l'enfant dans le jeu. C'est se jeter dans le jeu. Et là, c'est intéressant parce que j'ai vu quelqu'un parler sur l'importance du thérapeute de laisser de côté son ego. J'ai pris ça dans la communication précédente. Et c'est ça parce que si on ne laisse pas notre moi dans le tiroir, dans le moment du jeu, il n'y a pas de jeu possible. Et c'est ça, c'est comme le lien thérapeutique. Ça se construit dans le moment du jeu, pas forcément le jeu théâtral ou le jeu de marionnette. Ce lien, il s'est construit dans le moment présent du contexte thérapeutique. Et les marionnettes, ils rentrent pour rendre cette relation peut-être plus amusante. Et on sait bien quand on est dans le jeu, quand on est dans le ludique et qui ont produit plus dans d'alpha, les choses, ils arrivent plus facilement. Mais après, oui, il faut être à l'aise avec l'outil. Mais je suis sûre que même un thérapeute qui n'a, un adulte qui n'a jamais fait de marionnette, le jour où il fera, il va sentir ce que l'enfant y ressent lorsqu'il voit sa première poupée. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Cette estime de soi qui ressort quand il voit sa production, qu'il se dit, waouh, je l'ai fait ça, et que ça aura toute une utilité, qui va construire une histoire et que ça peut aller très, très loin. Et d'avoir sa propre collection, moi je trouve tout ça magnifique. Bon, enfin, moi j'ai que des résultats vraiment qui me mettent dans une situation où je suis souvent émue dans ce travail. Mais oui, mais il faut l'aimer. Ça c'est clair. Il faut aimer. Il
c'est
faut
pareil pour les adultes. Ils sont fascinés aussi par leur marionnette. Et ouais. c'est une émotion très forte aussi. D'un seul coup, il y a un autre soi. Il y a un doublon, enfin quelque chose qui nous regarde et qu'on peut faire dire des choses qu'on ne se permettrait pas de dire directement comme ça.
Tout à fait. Tout à fait. C'est extraordinaire. Moi, je suis une passionnée.
Merci beaucoup.